Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier la crise humanitaire en Afghanistan où la tension et les ressources sont nécessaires, un appel depuis Kaboul du haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux pays fournisseurs de blé, les prix augmentent nettement, notamment dans des pays d'Afrique du Nord, une hausse accentuée par les achats avant le Ramadan début avril. Nous y reviendrons avec le journaliste algérien Adlène Mehdi. Deux jeunes Palestiniens ont été tués hier, c'est arrivé lors d'opérations des forces de l'ordre israéliennes en Cisjordanie occupée. La répression des manifestations contre les généraux et le coût de la vie au Soudan. Les manifestants dénoncent notamment la mainmise des militaires sur la politique et l'économie. Notre invité sera Marc Lavergne, spécialiste du Soudan, docteur en géographie, directeur de recherche émérite au CNRS. Chaque 15 mars sera désormais une journée de lutte contre l'islamophobie, initiative de l'ONU. Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont ainsi adopté par consensus une résolution proposée par le Pakistan. Trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, la capitale est désormais encerclée et visée par l'armée russe. Kiev qui est sous couvre-feu jusqu'à au moins demain de 20h à 7h du matin. Des pourparlers russo-ukrainiens visant à arrêter le bain de sang ont repris ce mercredi après que le président ukrainien s'est dit prêt à renoncer à adhérer à l'OTAN. Dans ce contexte, les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes sont arrivés hier soir à Kiev pour affirmer le soutien sans équivoque de l'Union européenne à l'Ukraine. La guerre en Ukraine et ses répercussions, notamment en Afrique du Nord. Cette guerre bouleverse l'approvisionnement en blé. Résultat, les principaux acheteurs de la céréale doivent trouver des volumes sur le marché pour répondre à leurs besoins. L'affolement des prix du blé au niveau international peut être catastrophique pour des pays d'Afrique du Nord, nous dit le journaliste algérien Adlène Mehdi, journaliste notamment au Point Afrique. Entretien avec Adlène Mehdi.
La première répercussion que nous redoutions ici en Algérie, c'est par rapport aux importations de blé. L'Algérie importe du blé de Russie. Après une interruption de 5 ans, on a recommencé à importer du blé russe fin 2021, donc c'est tout frais. On a quelques importations du blé ukrainien. Heureusement que ces dernières années, l'Algérie a décidé de diversifier ses fournisseurs en blé. Donc pour le moment, les officiels disent, le ministère de l'Agriculture, pour être précis, dit qu'on a un stock de 6 mois et que les prochains contrats d'achat sont toujours assurés parce qu'ils ont diversifié leurs partenaires, notamment aux Pays-Bas, France, qui était banni à un moment. Et là, la France revient un peu sur le marché du blé pour l'Algérie et États-Unis, ainsi que d'autres pays encore. Donc, sur ce plan-là, la peur n'est pas dans l'approvisionnement. Par contre, le vrai souci, c'est le prix. C'est-à-dire que c'est l'affolement des prix au niveau international, du marché international du blé, qui peut être catastrophique pour nous et pour beaucoup de pays d'Afrique du Nord. L'Algérie subventionne toujours son pain, mais même avec les subventions, on craint un choc plus puissant, d'autant plus que le Ramadan arrive, c'est début avril, et c'est une période de grande consommation des denrées alimentaires. Et donc, c'est une situation au ciseau où on peut se retrouver dans des tendances haussières un peu délicates pour les couches moyennes et les couches les moins favorisées aussi.
Et cette tendance haussière, elle est déjà constatée aujourd'hui?
Oui, en fait, depuis la crise du Covid, avec l'explosion des frais du fret, l'explosion des matières premières ne date pas depuis la crise ukrainienne. La crise ukrainienne a précipité et a fait exploser les prix. Mais la tendance haussière était déjà là depuis la crise du Covid. Donc c'est ça qui est très inquiétant pour le moment.
Quelles mesures ont été prises justement pour éviter une forte contestation sociale?
Il y a eu au début il y a quelques mois, justement, parce que les prix des denrées alimentaires, notamment fruits et légumes, avaient explosé. Donc le gouvernement a quasiment criminalisé l'acte de spéculation, l'acte de spéculer autour des denrées alimentaires. Donc ça, c'était un premier pas. Les autorités essayent de créer des stocks de pommes de terre, d'alimentation, en essayant d'encourager de plus en plus à une gestion plus rationnelle des denrées alimentaires. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'Algérie produit beaucoup de denrées alimentaires, beaucoup, elle a une agriculture florissante ces 10 dernières années, mais le manque de logistique, le manque de chaîne de froid, le manque de rationalité dans la distribution, etc., etc., font qu'il y a beaucoup de déperditions. Donc l'État essaye de faire entrer un peu de rationalité, il n'y arrive pas à 100%, mais la crise actuelle le pousse à faire ça. Et dimanche, au dernier Conseil des ministres, il y a une décision d'interdire toute exportation des denrées alimentaires stratégiques, et notamment celles qu'on importe déjà.
Pour revenir sur cette guerre en Ukraine, l'Algérie peut-elle être une alternative face à l'éventuel manque de gaz en provenance de Russie, sachant que les pays européens importent 40% de leur gaz de Russie et que aujourd'hui l'Union européenne cherche à trouver des solutions alternatives?
Oui, bien sûr, parce que l'Algérie est classée troisième après la Russie et la Norvège au niveau des approvisionnements en gaz pour l'Europe, via les gazoducs, l'Italie et l'Espagne. On est à 11% à peu près de toute la demande européenne. Nous, on fournit 11% seulement de gaz. Ça aurait pu être une occasion pour l'Algérie, mais on a deux gros obstacles, on va dire. Le premier obstacle, c'est que l'Algérie n'a pas les capacités physiques pour augmenter sa production en gaz. Cela aurait demandé des investissements beaucoup plus importants dans l'exploration, dans le transport et dans le raffinage dans nos ports. Donc ça, on ne l'a pas déjà. Donc ça, on est très limité pour arriver à ça. Et deuxièmement, même si les autorités russes ont récemment déclaré que si l'Algérie augmentait ses approvisionnements en gaz pour l'Europe, cela ne les gênerait pas parce qu'il s'agirait d'une question commerciale. Mais quand même, la Russie est un allié stratégique, l'Europe est un partenaire stratégique, et donc l'Algérie essaie de jouer l'équilibre entre les deux. Et pour ne pas trop s'immiscer dans la guerre gazière qui se profile tout en maintenant ses intérêts. Donc l'Algérie joue un équilibre un peu difficile sur cette affaire.
Avec une proposition qui a été faite par le patron de la Sonatrach.
Oui, c'est une déclaration qui a été faite récemment, mais c'est une déclaration qui a été déjà faite auparavant, bien avant la crise, en novembre déjà. Le patron de Sonatrach a essayé de rassurer les partenaires européens. On a rajouté du matériel aussi pour booster la tension de pompage du pipeline qui va vers l'Espagne. Mais avec toute la bonne volonté du monde, nos volumes ne peuvent pas évoluer que de 30% maximum. Donc on en est bien, bien loin des 155 milliards de mètres cubes que les Russes donnent à l'Europe. Donc on est encore loin de ça.
Sur cette invasion russe en Ukraine, cette guerre en Ukraine, quelle est la position officielle aujourd'hui de l'Algérie?
Question délicate. Il faut juste rappeler qu'il n'y a eu aucune réaction officielle des affaires étrangères algériennes par rapport à l'attaque du 24 février. La seule déclaration que j'ai pu trouver, c'est le porte-parole des affaires étrangères qui dit que l'Algérie refuse d'être impliquée ou attirée ou piégée par le conflit entre deux entités étrangères. Bon, ça c'est un code pour dire aux Européens, ne nous demandez pas de nous positionner avec l'un ou avec l'autre. Donc, pour le moment, l'Algérie est très très prudente avec cette position. À l'ONU, il y a un petit signal parce que l'Assemblée générale de l'Algérie a été parmi les 35 pays qui se sont abstenus pour condamner l'attaque russe. Voilà, donc ça c'est un message qui dit que voilà, nous on a voté ni oui ni non, on s'est abstenu et ça exprime toute la prudence qu'a Alger vis-à-vis de ce dossier-là.
Adlène Mehdi, journaliste, notamment au Point Afrique. La guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier la crise humanitaire en Afghanistan où l'attention et les ressources sont nécessaires. Un appel depuis Kaboul du haut commissaire de l'ONU aux réfugiés. Depuis la prise du pouvoir par les talibans en août dernier, le pays subit une grave crise financière. Cela alors que la situation humanitaire est très difficile après 4 décennies de conflit. La faim menace aujourd'hui 23 millions d'Afghans et cela représente 55% de la population. Les forces israéliennes ont tué hier 2 jeunes palestiniens. C'est arrivé lors d'opérations dans 2 secteurs différents de la Cisjordanie occupée. Un adolescent âgé de 16 ans a été tué dans le camp de réfugiés de Batala près de Naplouse. Un jeune homme âgé de 20 ans a été tué dans le camp de réfugiés de Kalandia près de Ramallah. 6 autres jeunes palestiniens ont été blessés par balles selon le ministère de la Santé palestinien. La répression des manifestations contre le pouvoir militaire et contre la vie chère au Soudan. Répression qui a fait 87 7 morts et des centaines de blessés parmi les manifestants depuis le coup d'État le 25 octobre dernier. Le Soudan qui a perdu son aide internationale. Le pays est désormais pris à la gorge par la hausse des prix des céréales et du pétrole due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur la situation au Soudan, entretien avec Marc Lavergne, spécialiste du Soudan, docteur en géographie, directeur de recherche émérite au CNRS. Marc Lavergne.
L'évolution de la situation était prévisible dès le début de cette révolution soudanaise et depuis la chute d'Omar el-Béchir. On peut même penser que l'armée a précipité la chute d'Omar el-Béchir à l'époque parce qu'il était devenu un élément plutôt gênant. Mais il n'y a jamais eu d'aspiration démocratique, évidemment, ni du côté de l'armée, ni du côté des puissances qui la soutiennent. Alors l'armée a joué apparemment un rôle conciliateur en partageant le pouvoir avec des civils, qui étaient un peu les idiots utiles dans cette affaire, puisqu'ils apportaient, eux, des réseaux qui permettaient de redresser la balance économique du pays, avec l'aide de l'Occident, de la France en particulier, qui était très en avant sur ce dossier. Mais au fond, rien n'était changé dans le rapport de force, dans la mesure où c'était toujours l'armée qui détenait les clés du pouvoir et qui dirigeait une transition démocratique qui n'était qu'un leurre, hein, et qui a pris fin à partir du moment où ce leurre n'était plus nécessaire du point de vue des militaires. Donc le 25 octobre 2021, il a été mis fin à cet intermédiaire. Alors ce qui est intéressant, c'est par rapport aux autres révolutions arabes des années 2011, c'est que là, le peuple soudanais résiste, hein, et résiste dans la capitale, résiste dans toutes les grandes villes du centre du pays, et que même dans les régions les plus lointaines, comme le Darfour, il y a des échos de ce qui se passe dans la capitale. On a vraiment ce sentiment qu'il n'y a pas de clivage au sein de la société entre, par exemple, des gens qui seraient plus proches d'un islam politique, d'autres qui seraient plus progressistes, d'autres plus traditionnels. C'est toute la jeunesse soudanaise, garçons et filles unis, qui s'organise et qui s'organise de façon clandestine mais efficace. Et on se demande où va le navire. Hein. Il y a une crise économique qui est catastrophique, effectivement, qu'il était au départ déjà en décembre 2018, ce qui a provoqué la chute de Omar el-Béchir. Mais les choses ne s'arrangent pas. La livre a été sauvée temporairement par la levée des sanctions contre le Soudan, mais le Soudan a payé un prix très cher pour ça, puisqu'il a dû reconnaître Israël, mais ça n'a été qu'un moment de répit finalement, et la chute de la monnaie continue de s'effondrer, et on voit que dans la situation globale aujourd'hui dans laquelle se trouve le Soudan, avec ce qui se passe effectivement en Russie ou en Ukraine, les approvisionnements du Soudan sont menacés, les céréales dont le pays doit importer la majeure partie vont augmenter, et le prix du pain, ça a toujours été...
Et ce sont des manifestations contre le pouvoir militaire, mais aussi des manifestations contre la vie chère. Cette guerre en Ukraine, cette invasion de l'Ukraine par la Russie, elle a déjà un impact sur la hausse des prix?
Je pense que directement, oui, parce qu'il y a un effet d'anticipation, si vous voulez. Il y a certainement des stocks de grains, quand même, dans les silos. Les boulangeries peuvent encore tourner, mais c'est l'approvisionnement de demain qui, je crois que les derniers navires qui sont partis d'Ukraine, de Russie, arrivent encore en Égypte, arrivent encore dans ces pays qui sont de gros importateurs. Mais à la fois le paiement de ces livraisons est rendu difficile par la situation financière du pays qui achète, mais en même temps, les circuits d'approvisionnement s'arrêtent, on le voit bien, hein, les ports d'embarquement vont être asséchés, peut-être même que les réserves de grains qui sont stockées dans les ports ukrainiens vont être bombardées, qui sait. Et donc, il n'y a pas de solution de remplacement à cet approvisionnement. La France exporte un peu, d'autres pays aussi, mais des pays lointains, et puis c'est pas du jour au lendemain qu'on peut mettre en place des circuits de remplacement. Vous voyez ? Alors, sur place, la production agricole, malheureusement, elle est déficiente parce que le pays a 40 millions d'habitants, il a beaucoup augmenté, il a une natalité assez forte, et mais surtout aucun investissement n'a été fait dans le domaine agricole par toutes cette année, ces 30 années de régime militaro-islamiste. Beaucoup d'argent a été dépensé pour acheter des armes, pour améliorer le sort des militaires et surtout des officiers qui roulent carrosse, je dirais. Donc l'armée a accaparé 80% du budget de la nation. Il faut bien voir que l'éducation, c'est 4 ou 5%, la santé, c'est encore moins. Et donc tout ce qui est fonctionnement de l'État soudanais est complètement délabré. Et puis les ressources affectées aux produits de première nécessité, comme c'était le cas autrefois, il y avait des subventions à la fois pour tous ces produits alimentaires, mais aussi pour les soins de santé. Il y avait un appareil, un État soudanais qui, depuis l'indépendance, fonctionnait avec un sens de l'État qui... le Soudan n'est pas un pays né à l'indépendance, c'était une vieille nation. Depuis le 19e siècle au moins, avec une structure d'État et avec des fonctionnaires. Et tout ça tournait, mais ça s'est, tout ça s'est effiloché ou s'est effondré avec les 30 ans de ce régime depuis 1989, et cette dictature qui était en même temps guerrière.
Marc Lavergne, spécialiste du Soudan, docteur en géographie, directeur de recherche émérite au CNRS. Chaque 15 mars sera désormais une journée de lutte contre l'islamophobie, initiative de l'ONU. Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont ainsi adopté par consensus une résolution proposée par le Pakistan. Non contraignant, le texte appelle au renforcement des efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d'une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur le respect des droits de l'homme et de la diversité des religions et des convictions. Le délai de dépôt des candidatures pour les législatives du 15 mai prochain au Liban a expiré hier à minuit. Il y a 1043 candidats, dont 155 femmes, un chiffre en hausse par rapport au scrutin de 2018, fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Yannick Trigance, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national du Parti Socialiste à l'éducation et à l'enseignement supérieur, soutien de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo, émission présentée par Loïc Barrière. Il est 12h17. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.